ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Il est 19h30, temps universel. Ravi d'être avec vous. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du mercredi 18 octobre 2017. D'abord, le sommaire. Au Togo, la situation tendue à Lomé est saccadée. Les manifestations de l'opposition sont interdites. Au Kenya, le président de la commission électorale émet de forts doutes sur sa capacité à organiser la présidentielle du 26 octobre. Interdiction en Ouganda, des manifestations contre la suppression de la limite d'âge pour briguer la présidentielle. À redécouvrir dans cette édition, le musée des civilisations à Abidjan.
C'est pour dire à tous les publics que le musée est ouvert. La Renaissance aussi parce que pour la première fois, on présente des œuvres que les populations n'ont pas vues jusque-là. Il y a beaucoup d'objets.
Et vous aurez aussi un morceau. C'est la rumba congolaise avec Jean-Jacques Kibinda Pembele. Retrouvez Nicolas Pinot pour votre page des sports et Blanche Sanou pour l'actualité économique juste après le journal. Au Togo, des coups de feu et tirs de grenades lacrymogènes ont été entendus à milieu d'après-midi autour du domicile du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. Une situation pas très étrange au vu des incidents qui se sont produits à Lomé depuis la matinée. Le bilan dressé par le gouvernement confirme 4 morts. Le point à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Les gaz lacrymogènes ont embaumé l'atmosphère de Lomé toute cette journée. Et pour cause, les militants et sympathisants de l'opposition ont bravé l'interdiction qui consiste à ne pas marcher un jour ouvrable imposée par le gouvernement togolais. Presque tous les quartiers de Lomé ont été secoués. Des face-à-face entre forces de l'ordre et manifestants ont été enregistrés dans le canton de Bay et dans les banlieues est et nord de la ville. Contre les gaz lacrymogènes, les manifestants ripostent avec des jets de pierre. Des personnes en tenue civile ont été aperçues dans certains quartiers de Lomé avec des fusils de gaz lacrymogènes en main. Pour les leaders de l'opposition, il s'agit des miliciens à la solde du pouvoir. Des milices ont été préparées et qui sont à l'œuvre avec le soutien des forces de sécurité, a affirmé Brigitte Adjamagbo-Johnson de la coalition des 14 partis de l'opposition. À ce côté, la ville est sous siège. Les militaires et forces de l'ordre la quadrillent et dispersent tout attroupement. En début d'après-midi, Sokodé sera silencieuse comme un cimetière. D'après des témoignages recueillis sur place, tous les habitants se sont terrés chez eux. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Cour pénale internationale a intensifié ses enquêtes sur les responsables des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La procureure Fatou Bensouda a dit au quotidien public ivoirien Fraternité Matin qu'elle ne vise ni le statut ou appartenance politique. La France a remis du matériel militaire au Burkina Faso, c'est notamment des véhicules de transport, des mitrailleuses et des postes de transmission et du matériel de couchage. Cette aide est destinée au bataillon du G5 qui sera déployé dans le nord du pays. Prochainement, la même force recevra de nouvelles livraisons de matériel composé des détecteurs de mines, des casques et gilets pare-balles, du matériel de déminage et des moyens de transmission. Au Niger, la culture du poivron, interdite depuis 2 ans, est de nouveau autorisée dans la région d'Ifa, dans le sud-est. Les autorités soupçonnaient la filière de financer les activités de Boko Haram. 4 missionnaires britanniques ont été enlevés par des rebelles présumés près de la ville pétrolière de Wari, dans le sud du Nigeria. Des échauffourées ont éclaté aujourd'hui au siège du parti au pouvoir en Guinée-Bissau entre partisans de 15 députés dissidents de cette formation de la direction. Le président de la commission électorale du Kenya a reconnu aujourd'hui qu'il serait difficile de garantir une élection libre et équitable lors du scrutin prévu le 26 octobre. Wafula Chebukati a aussi dénoncé ce qu'il appelle les interférences de la classe politique. N'est-ce pas, Jacques?
Je donne un carton jaune à tous les dirigeants politiques du pays. Ce sont les mots du patron de la commission électorale kényane, Wafula Chebukati, exhortant les politiciens de tous bords à cesser toute tentative d'interférer avec le processus. Il a également déclaré que la commission est minée par des dissensions internes qui ont sapé son autorité et l'ont empêché de garantir son bon fonctionnement. Il a dit avoir poussé pour des changements majeurs, mais que toutes ses propositions ont été rejetées par une majorité de commissaires. Se refusant à démissionner après la validation par la Cour suprême des résultats de la présidentielle du 8 août, M. Chebukati a proposé au président Uhuru Kenyatta et au leader de l'opposition Raila Odinga, qui a exclu de participer au scrutin du 26 octobre, de se rencontrer en sa présence pour discuter. Par ailleurs, l'une des 8 membres de la commission électorale, Roselyne Akombe, a jeté l'éponge, elle a fui son pays et s'est réfugiée à New York après avoir subi des menaces. Dans un communiqué, elle estime que l'élection présidentielle au Kenya est une parodie de démocratie.
Jacques Aristide, la police ougandaise a interdit aujourd'hui les manifestations contre un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Un homme a été tué dans le sud-ouest. Ce projet permettrait à Yoweri Museveni, qui a 73 ans, d'obriguer un 6e mandat en 2021. Les précisions de John Lyndon.
Les autorités ougandaises interdisent régulièrement les manifestations de l'opposition et la plupart sont considérées comme illégales. Hier soir, la police a tiré du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre des centaines de partisans de l'opposition à Kampala. La dirigeante de l'opposition au Parlement, Winnie Kiza, a déclaré que cette décision était inconstitutionnelle et qu'elle allait la contester par tous les moyens. Fin septembre, le Parlement a adopté une motion autorisant un député du parti au pouvoir à présenter un projet de loi visant à amender la Constitution pour supprimer la limite d'âge de 75 ans pour être élu président. Le président Museveni, 73 ans et au pouvoir depuis 1986, n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, lui permettant ainsi de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats. Si cet amendement passe, Yoweri Museveni pourrait ainsi briguer un 6e mandat en 2021.
Des affrontements opposés aujourd'hui des soldats de l'armée congolaise à de présumés rebelles ougandaises et des forces démocratiques alliées, ADF, RDC toujours, des autorités ont présenté à Kinshasa un tableau sombre d'une justice infectée par plusieurs maux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande de renforcer la mission de paix MINUSCA en Centrafrique de 900 casquets bleus. Le pape François a imploré la conversion des hommes violents en exprimant sa douleur après l'attentat de samedi à Mogadiscio. Les immigrés en Italie produisent une part du produit intérieur brut supérieure au PIB de la Hongrie ou presque le triple de celui de la Croatie. Une étude présentée aujourd'hui à Rome parlait d'environ 131 milliards en 2016. Publication demain dans un livre sur Nelson Mandela intitulé « Pas de temps à perdre ». Il évoque les 5 ans qu'a passé Mandela à la suite de l'Afrique du Sud après la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge fédéral de l'État américain du Maryland a suspendu l'application de la 3e version du décret du président Donald Trump en matière d'immigration. Un jugement similaire a été pris hier par un magistrat de Hawaï. Le point avec Solange Nyamoulis.
La décision du juge Theodore Chuang devrait faire l'objet d'un appel rapide du gouvernement. Le décret du président Trump interdit l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays et devrait entrer en vigueur ce mercredi. Le juge Chuang a interdit de bloquer l'entrée d'étrangers qui ont une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis. Dans un communiqué, peu après la décision hier du juge Derek Watson de Hawaï, la Maison-Blanche a estimé que cet ordre est porteur d'erreurs dangereuses et sape les efforts du président pour assurer la sécurité du peuple américain. Ses détracteurs lui reprochent de cibler sans raison et de façon discriminatoire des millions de musulmans. Le président américain a signé le 25 septembre ce décret interdisant l'entrée aux États-Unis des ressortissants du Tchad, de la Libye, de la Somalie, du Yémen, de la Syrie, de l'Iran, de la Corée du Nord et également des responsables vénézuéliens.
Le gouvernement espagnol pourrait renoncer à suspendre l'autonomie de la Catalogne si le président indépendantiste de la région acceptait de convoquer des élections régionales pour repartir à zéro et mettre fin au conflit qu'il oppose à Madrid. La chancelière allemande Angela Merkel a entamé des négociations pour tenter de former son quatrième gouvernement. Cette tâche s'annonce particulièrement ardue, même si son camp conservateur s'est dit confiant à l'issue des premières discussions. La Commission européenne a débloqué près de 120 millions d'euros pour aider les pays européens à protéger les espaces publics de leur ville. Ouverture en Chine du 19e congrès quinquennal du parti au pouvoir, le Parti communiste chinois. Quelques 2300 délégués ont écouté religieusement le discours fleuve du président Xi Jinping, abondamment médiatisé dans le pays. À l'issue de ce congrès, il doit obtenir un nouveau mandat de 5 ans à la tête du parti et du pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et VOA Afrique. L'actualité en Afrique, c'est aussi l'économie, signée Blanche Sanon.
Le président Alassane Ouattara effectue une visite officielle au Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord de partenariat stratégique et 3 mémorandums d'entente dans le domaine industriel, l'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin des fleuves Bia et Tanoé entre les deux pays et sur la collaboration dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Les deux parties se sont engagées dans le respect et la mise en œuvre effective de l'accord. En Guinée équatoriale, le gouvernement a annoncé la signature de plusieurs contrats pétroliers avec des entreprises étrangères depuis mi-octobre. Ces nouveaux contrats sont pour l'exploration et la production pétrolière. Ce pays d'Afrique centrale de près d'un million d'habitants subit encore les conséquences de la chute des prix du baril en 2014. Avec une production de près de 250 000 barils par jour en 2015, le pays est devenu officiellement membre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. 60% du nouveau capital du Commonwealth Development Group sera investi en Afrique de l'Ouest dans les 5 prochaines années. Ce financement d'un montant de 2 600 milliards de francs CFA sera utilisé dans les secteurs comme le bâtiment, travaux publics, l'agriculture et l'énergie, selon les explications de Marc Pey, représentant CDC Group au cours d'un point de presse à Dakar.
Dans votre page des sports, nous sommes avec Nicolas Pinot dans ce studio. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On parle de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, le Mali et le Ghana en quart de finale.
Ce mercredi, le choc africain entre le Ghana et le Niger a tourné à l'avantage des Ghanéens 2-0. Double champion du monde de la catégorie, les Black Starlets étaient favoris et la logique a été respectée du début à la fin. Conséquence, on aura un quart de finale 100% africain entre le Mali et le Ghana et donc à coup sûr une équipe africaine qualifiée pour les demi-finales. Le Brésil s'impose face au Honduras en huitième de finale 3-0 en quart, il affrontera l'Allemagne.
La soirée de la Ligue des Champions en Europe, il y a déjà des buts, Nicolas.
Eh oui, après 45 minutes de jeu, le PSG qui mène 2-0, un but de Mbappé et de Cavani, l'Atlético Madrid tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Karabakh en Azerbaïdjan, et puis Chelsea domine à la mi-temps 2-1 l'AS Rome. Match nul un but partout entre le Sporting Portugal et la Juventus Turin, le FC Barcelone qui mène 1-0 face à l'Olympiakos et le Bayern Munich qui domine le Celtic Glasgow 2-0.
Nous revenons sur les résultats d'hier soir, le Real accroché.
Et Manchester City a remporté le choc du groupe F face à Naples. A noter que le Guinéen Amadou Diawara a été buteur. Le Real Madrid a lui concédé le match nul à Santiago Bernabeu face à Tottenham. Un but partout. Il reste en tête de son groupe à égalité de points avec les Spurs. D'autant que Dortmund a été accroché à Nicosie. Un but partout. Auteur d'une prestation plus solide que son adversaire, le Shakhtar Donetsk s'impose 2-1 face à une vaillante équipe de Feyenoord. Et puis les Monégasques battus à domicile au Stade Louis II par Beşiktaş de 2-1. Liverpool a pris la tête du groupe, une véritable gifle, 7-0 la victoire face à Maribor. Belle victoire également du Spartak Moscou, étonnant face à Séville, 5-1. Et puis après une première période folle avec 5 buts, Leipzig qui décroche le premier de succès de son histoire en Ligue des Champions en battant Porto 3-2.
Un mot sur la NBA, le championnat en titre qui chute d'entrée.
Eh oui, Golden State battu par Houston 122-121. Mais bien évidemment, l'image de la soirée entre Cleveland et Boston, c'est la blessure de Gordon Hayward. À noter pour la petite histoire que Cleveland s'est imposé 102-99.
Merci Nicolas pour toutes ces précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza. Deuxième partie de cette édition pour aborder les dossiers du jour. Au Togo, Sokodé était le théâtre d'une ambiance tendue entre forces de l'ordre et manifestants. C'est à la suite de l'interpellation de l'imam Alpha Hassan. Ces manifestations ont fait 2 morts, côté militaire et un civil tué. Un nouveau bilan dressé par le ministère de la Sécurité parle de 4 morts. Pour savoir l'atmosphère actuelle à Sokodé et le sort de l'imam Alpha Hassan arrêté, Yakuba Ouedraogo a joint le journaliste de la radio Al Barka à Sokodé, Joachim Soko.
Il n'a pas été libéré. La nuit, quand il a été enlevé, la nuit de lundi, ils ont pris la direction de Kara. Selon les proches de la famille, puisqu'il a été enlevé devant sa famille, il y a son garçon qui a suivi un peu le cortège et ils ont pris la direction de Kara. Pour le moment, on n'a pas eu un écho de sa libération. D'ailleurs, même la coalition de l'opposition a demandé immédiatement sa libération.
Kara, c'est où?
Kara, c'est à quelques 70 à 80 km au nord de Sokodé, bien sûr, qui est le centre.
Comment est l'atmosphère à Sokodé aujourd'hui?
C'est la panique générale, la terreur. Chacun se cache à son chambre, évitant une certaine confrontation entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a les manifestants qui ont fait beaucoup de dégâts. Lundi à hier, mardi, les institutions d'État à l'esphère de Togo Télécom, à l'esphère de la Poste, des affaires sociales ont été saccagées, pillées, brûlées complètement. Les domaines privés également ont été saccagés, brûlés, à l'instar des kiosques qui se logeaient tout au long de la nationale numéro 1, les baraques des boutiques, des couturiers, des coiffeurs, etc. Tout est saccagé, tout est brûlé. Au beau matin, j'ai fait un tour à travers la ville, tout est inerte. Si vous attendez peut-être les voitures, ça serait les voitures des militaires, des policiers, etc. Et par moment, comme c'est sûr, la nationale numéro 1, ils essaient quand même de protéger les voitures qui passent pour leur donner une issue favorable pour sortir vers Sokodé.
Et donc les activités sont aux arrêts à Sokodé aujourd'hui?
Toute activité est aux arrêts.
Qu'est-ce qu'on reproche à l'imam Alpha Hassan?
Selon les proches ou bien selon nos investigations, ça veut dire que c'est le conseiller spirituel de Tia Chadam, qui est le président de PNP, Parti National Panafricaine. C'est lui qui, selon les dit dans sa mosquée, a prêché, selon ce qu'on l'accuse, qui s'est prêché, induit les actes de violence par rapport aux marches, la marche de l'opposition qui devait se tenir aujourd'hui et demain.
Est-ce que le président du PNP reconnaît que l'imam Alpha Hassan est son conseiller spirituel?
Bon, en fait, il est vrai de PNP. C'est pourquoi ils ont demandé sa libération immédiate quand ils ont appris que le gars a été arrêté.
C'était Joachim Soko, journaliste à la radio Al Barka à Sokodé au Togo.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtri comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdullahi Mohamed après ses 9 mois au pouvoir? La communauté internationale fait-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Shebab? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Direction Abidjan, où le musée des civilisations fermé depuis 2 ans a fait peau neuve. L'un des musées d'art nègre des plus riches du monde, selon les mots de Léopold Sédar Senghor. Sa première exposition post-rénovation est baptisée Renaissance. Claire Morin-Gibourg a joint la directrice du musée, Sylvie Memel-Cassi.
La Renaissance, parce que le musée fait aujourd'hui face à plusieurs challenges. D'abord, le musée était fermé pour des travaux. Le musée, d'abord en 2011, avait été pillé, fermé pendant 2 ans. C'est un défi au niveau de la fréquentation parce que le public avait fini par croire que le musée était à jamais fermé. Et donc la Renaissance, c'est pour dire à tous les publics que le musée est ouvert. La Renaissance aussi parce que pour la première fois, on présente des œuvres que les populations n'ont pas vu jusque-là. Il y a beaucoup d'objets que nous n'avions pas présentés jusque-là. Les œuvres qui sont en exposition font partie de la liste des chefs-d'œuvre du musée. La Renaissance aussi parce que le musée a été relooké, parce que nous voulons nous mettre dorénavant dans les normes internationales. Donc nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que tous ceux qui viennent au musée se sentent fiers de se trouver dans un vrai espace culturel.
Alors, c'est un musée qui est connu hein, dans toute la région, puisque je vais citer les mots de l'ex-président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Il avait dit que c'était l'un des musées les plus riches du monde, en art africain, oui. Bien sûr.
Effectivement, d'ailleurs, il a lancé un appel pour dire que ces autorités ivoiriennes ont une responsabilité devant l'histoire, parce que les Africains d'aujourd'hui, comme ceux de demain pourront se reconnaître dans les collections du musée, parce que ce musée parle de l'histoire de l'Afrique. Et donc, c'est très important que les autorités prennent conscience de cela et donc mettent tout en œuvre pour que cette institution réponde aux attentes des divers publics.
Dans quelques mois, vous avez une exposition qui s'intitule « La collection fantôme ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
C'est donc un cri de ralliement à la cause du patrimoine qui doit être préservé. Et donc, la collection fantôme est là pour appeler aux uns et aux autres que le musée a connu un drame. Le phénomène du trafic illicite des biens culturels, c'est malheureusement une réalité. Nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé, parce que si on ne prend pas garde, ça risque encore de se répéter. Donc la collection fantôme, ça va être une exposition d'œuvres contemporaines des artistes aux côtés des œuvres ethnographiques du musée des civilisations, pour que les objets qui ne sont plus là puissent continuer de parler, parce que nous estimons que même si ces objets ne sont pas là aujourd'hui, ces objets sont quand même gravés dans notre mémoire et dans nos cœurs.
Sylvie Memel-Kassi, directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
La RDC regorge de talentueux musiciens et la rumba congolaise est connue à travers des légendes comme Koffi Olomide ou encore Feu Papa Wemba. Mais il y a aussi ces jeunes loups aux dents longues comme Karmapa, Jean-Jacques Kibinda Pembele de son vrai nom. Abdulrahman Dia l'a rencontré lors de son récent séjour à Kinshasa, la ville des personnes élégantes. Suivez.
Si on appelle le prince des rumba, je pense que c'est parce que Rochero, quand il était vivant, on lui avait posé une question une fois. On lui a demandé, mais Rochero, là, vous êtes vraiment à la fin de votre carrière. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Qui vraiment vous trouvez qui peut vous remplacer? Et Rochero, dans sa bouche, il avait cité Koffi, il avait cité Karmapa. Mais il a rajouté, je vois que Karmapa a mis la barre très haute depuis ces jours-là. On a commencé à m'appeler le prince de la rumba.
Bah maman, bah papa, yabiso ele yango yo.
J'écrivais des chansons et j'écris des chansons pour beaucoup de grands musiciens. Une fois j'ai rencontré Papa Wemba, il m'a dit, en tout cas Karmapa, t'es fort à mélodie. Et c'est là que j'ai pris conscience et j'ai commencé ma carrière. La carrière professionnelle en 2002, j'ai sorti mon album, mon premier album qui s'appelait « Je m'appelle toi ». L'album, une fois sorti, c'était une grande première au Congo, chez nous. Un artiste, un nouveau qui arrive, qui sort un album à la fin de l'année. Meilleur album, meilleur auteur-compositeur que j'étais, meilleure chanson, et puis j'étais la révélation de l'année. J'ai écrit une chanson qui était sortie même à la fin de l'année, comme d'habitude, chez nous. C'était sorti meilleure chanson de l'année. Et c'était la chanson « Messie les députés ». Là, je m'étais inspiré en fait, de ce qui se passe chez nous sur l'hémisphère politique. Je voulais tout simplement réveiller nos députés parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour le peuple. À partir de Messieurs les millionnaires, je suis devenu un chanteur engagé, je dirais, oui. La musique congolaise, maintenant, c'est vrai que la rumba a un peu reculé, faute du management, faute de beaucoup de choses, quoi. Mais la musique congolaise reste, pour moi, la rumba reste la mère de toutes ces musiques qu'on écoute en ces moments en Afrique. La rumba, c'est un patrimoine national.
Voilà, joli morceau de la rumba signé Karmapa à Kinshasa, la ville des personnes élégantes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président de la CAF estime légitime que l'Afrique organise le Mondial 2026. Dans une interview exclusive à VOAAfrique à partir de Rabat, où il est en déplacement, le président de la Confédération africaine de football revient sur l'attribution du CHAN 2018 au Maroc, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et la prochaine attribution du Mondial 2026. Nicolas Pinault a joint le président Ahmad dans la capitale marocaine.
Vous savez, moi je suis président des 54 pays africains. Au moins, il y a un pays africain qui a la possibilité et le moyen d'accueillir une Coupe du Monde. Ça, c'est déjà une fierté à nous tous, nous Africains. L'Afrique, quoi qu'on dise, c'est parmi les quatre grands continents et parmi les deux très grandes en termes de nombre. On vit dans la démocratie et on n'a organisé qu'une seule fois la Coupe du Monde. Donc c'est tout à fait légitime si aujourd'hui l'Afrique réclame une deuxième organisation.
Le prochain grand rendez-vous, c'est la CAN 2019. Vous avez récemment apporté votre soutien au Cameroun qui organise cette compétition. C'est la fin de la polémique.
Moi, je n'ai jamais dit qu'on retire de Cameroun l'organisation. À aucun moment. Je suis un président qui vient de succéder notre administration. Il y a certaines règles qu'il faut toujours respecter. Moi, par contre, on est intransigeant. La CAF actuelle, les dirigeants de la CAF actuelle, dont moi-même, est intransigeant sur le respect de cahier de charge. Et on a revu notre cahier de charge. Si le Cameroun est honoré pour ces compétitions, ils répondent favorablement à toutes les exigences, aucun souci, j'avais toujours dit. Moi, par contre, j'avais dit, mais je le répète, au moment où j'avais dit que le Cameroun n'était pas prêt. La preuve, c'est que le lendemain de ma déclaration, les autorités politiques ont signé le contrat avec certaines entreprises pour les infrastructures. Et quelques semaines après, le gouvernement a mis en place le comité d'organisation. Alors, en tant que premier responsable, le propriétaire de la Coupe d'Afrique des Nations, je n'ai pas droit d'être inquiet.
Donc vous estimez que vos propos ont été utiles au Cameroun ?
En tout cas, il y a un progrès, il y a une évolution de la préparation depuis mon intervention. Vous savez que aujourd'hui même, si vous demandez où est surtout la Côte d'Ivoire, le comité d'organisation a été mis en place depuis un certain moment. Voilà un pays qui est déjà en avance. Qu'est-ce que je peux dire, c'est de les encourager. Donc, quoi qu'il en soit, c'était nécessaire en partie. Et je sais que beaucoup de Camerounais qui me connaissent ou qui ont la facilité de me contacter m'ont remercié sur ce intervention.
À l'époque, votre prédécesseur Issa Ayatou avait critiqué vos propos. Cela vous a touché ?
Non, je laisse à vous de voir pour quelqu'un qui a dit qu'il va m'aider. Et voilà sa première contribution.
Ahmad, le patron de la Confédération africaine de football, un entretien à retrouver sur votre site voafrique.com. Et c'est la fin de cette édition. Sims Lumami a assuré la mise en onde. Outcook à la console. Présentation Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Passez une agréable soirée chez vous. À très bientôt.